Bienvenue à Ça vaut le détour, une présentation des lunettes eSight.
Ça vaut le détour.
Bonjour, ici Maxime Despomerleaux. Bienvenue à Ça vaut le détour, édition du 25 janvier 2016. Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, notre première émission de la saison hivernale. Je me permets donc de vous souhaiter une heureuse année 2016, une saison riche en découvertes. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. En ce début de saison, c'est une toute nouvelle mouture de l'émission qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous accompagnerai donc tout l'hiver, en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Au programme, enjeux de société, nouveautés en matière d'accessibilité, organismes et services, bonnes adresses, événements et conseils divers, je recevrai chaque émission des invités et collaborateurs réguliers pour parler de sujets qui vous touchent et aujourd'hui ne fait pas exception. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitter avec le mot-clé CVLD pour Ça vaut le détour ou alors canal M, @canal, barre de soulignement, M. Vous pouvez aussi soumettre à notre équipe de réseaux sociaux des sujets d'actualité que vous voudriez qu'on approfondisse dans le cadre de l'émission, comme ce sera le cas aujourd'hui. On réagit notamment à cette nouvelle sur les baisses de budget dans les CIUS, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, qui ont des répercussions sur les services à domicile. On en parle en fin d'émission avec Mme Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Mais tout d'abord, on va faire un tour du côté des services offerts par un organisme du milieu associatif que vous connaissez bien, l'Audiothèque. La mission de l'Audiothèque est de rendre accessible la documentation écrite, informative, autant d'ordre général que spécialisé, aux personnes ayant des limitations importantes à la lecture. Pour nous parler davantage des activités à l'Audiothèque, j'ai en studio avec moi Mme Nicoléa Tremblay, coordonnatrice au développement et aux services. Bonjour Mme Tremblay.
Bonjour, bonjour à tout le monde et j'en profite pour une bonne année.
Oui, tout à fait. Moi, je considère qu'en janvier, tout le mois de janvier, on a le droit
absolument
encore de se souhaiter la bonne année. Donc, on va sauter, en fait, vif dans le sujet. L'Audiothèque, quelles sont les principales activités, les services qu'on y retrouve?
Alors, à l'Audiothèque, évidemment, comme vous avez dit d'entrée de jeu, je veux aussi corriger un petit peu le nom qui a été changé il y a quand même un peu plus d'un an. Alors, c'est Audiothèque, l'oreille qui lit.
Ah, c'est un complément.
Que, hein, c'est important. Parce que, effectivement, tout passe par les oreilles. Les services passent actuellement par le téléphone et je reviendrai sur le fait que nous allons aller sur Internet très bientôt.
Tout à fait.
Alors, les services qui sont offerts, ce sont des bénévoles qui viennent faire des lectures dans des studios. Ils viennent faire lecture de revues, magazines, environ une trentaine. Et évidemment, aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de remue-ménage dans les éditions de revues, publicité et compagnie. Mm-hmm. On a les circulaires qui sont à peu près indispensables parce que si jamais il en manque un, on a des appels, c'est évident. On a aussi des dépliants, des dépliants de toutes sortes, des brochures qui parlent de services et d'informations dont les gens ont besoin dans les services gouvernementaux ou autres. Il y a aussi des restaurants qui s'affichent chez nous, qui ont une vitrine audio.
Donc là, dans ce cas-là, on peut avoir accès au menu, par exemple, au service du restaurant.
Oui, entre autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont particulièrement, malheureusement, que dans la région de Québec. On a aussi des journaux au quotidien. Évidemment, on ne fait que les grands journaux. On ne peut pas faire les petits journaux locaux parce que ça serait, il y en a quelque chose comme une quinzaine de mille, je crois, environ. Alors, on ne pourrait pas y arriver. Ça serait impossible.
Ça prendrait beaucoup de bénévoles.
Oui, là, ben, ouais, puis on manquerait de place, là. Parce que, comme on sait, on peut pas être deux dans le même studio pour enregistrer.
Mm-hmm.
Alors, tout se fait via l'informatique, bien sûr. C'est pour ça que là, on va avoir la chance de s'en aller sur Internet. Et évidemment, pour ça, ben, c'est sûr que les gens doivent s'inscrire, OK? Et deviennent membres à ce moment-là de l'audiothèque.
Justement, donc les membres, c'est sur le site Internet, par exemple, il y a quelques informations rudimentaires sur les services offerts par l'audiothèque, l'oreille qui lit. Mais donc, on doit être membre, en fait, pour pouvoir avoir accès
absolument
à toute cette documentation-là. Oui. Et vous avez nommé des exemples qui sont très variés. Donc, ça va à la fois des grands titres des journaux principaux, des médias principaux au Québec, mm-hmm. mais aussi de la brochure d'information, des circulaires d'épicerie
et de pharmacie.
Mm-hmm. Quelle est la proportion? Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait de la clientèle que vous desservez? C'est combien de membres qu'on a? C'est quoi les demandes qui sont les plus importantes?
Bon, les demandes les plus importantes, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a des horaires télé. Et on a beaucoup de téléphages, même malgré le manque de vision ou de perception, si vous voulez.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de téléphages. Alors, les horaires télé sont extrêmement populaires. En fait, ce qui est le plus populaire, ce qui est le plus important, ce sont les circulaires d'épicerie parce qu'on sait très bien que, bon, quand on entre à l'épicerie ou qu'on a besoin d'un bénévole pour aider, pour faire notre épicerie, on doit savoir ce qu'on veut.
Oui.
On doit avoir une liste. Puis aussi, ben, si on connaît les spéciaux, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui court un peu les spéciaux, ben, à ce moment-là, les circulaires d'épicerie deviennent extrêmement importants.
Oui, c'est quelque chose qui s'insère dans notre quotidien. Mm-hmm. Vous mentionnez en début d'entrevue que maintenant, en fait, très bientôt, ces services vont être accessibles oui. sur Internet. Comment, oui. Ça va être quoi la différence de la procédure à ce moment-là?
Ben, en fait, il faut que les gens soient habiles à naviguer sur Internet parce qu'on ne donnera pas la formation pour aller naviguer sur Internet, bien sûr. On va indiquer aux gens comment s'y prendre pour aller chercher les services. C'est vraiment pas compliqué. Évidemment, tout est adapté. Je vous dis pas que tout est parfait, mais c'est sûr qu'on a travaillé très fort à essayer que ce soit le plus convivial possible pour les personnes qui utilisent des appareils adaptés.
Mm-hmm.
Actuellement, pour ce faire, les gens vont au téléphone seulement. Ils ont des codes, etc., pour y accéder, parce qu'on veut être sûr que les personnes qui utilisent les services sont vraiment les personnes qui en ont besoin. Parce que, vous savez, les revues, les journaux, tout ça, ça vient de façon gratuite.
Mm-hmm.
Donc, il faut que ce soit utilisé, les conditions, il faut que ce soit utilisé par des personnes qui ont des limitations visuelles, de sévères limitations visuelles. Je m'excuse, je veux tout dire en même temps, là. Ça devient compliqué.
Par exemple, moi, je n'ai pas de déficience visuelle, donc je ne pourrais pas être membre de l'audiété.
Non, sauf qu'il y a des personnes handicapées qui ont d'autres types de handicaps qui les empêchent d'avoir une facilité en lecture.
Mm-hmm.
Bon, je donne un exemple. Quelqu'un qui est atteint de Parkinson, par exemple, peut lire, mais en même temps, tenir un journal, ça peut devenir un exercice extrêmement difficile.
Tout à fait.
Pour ne pas dire même périlleux.
Oui.
Alors, à ce moment-là, cette personne-là pourrait avoir droit au service chez nous.
Oui, ou je pense même aux gens qui ont une grande dyslexie.
Exact.
Aussi.
Tout à fait.
On parle de cette présence quand même importante des médias. C'est quoi l'impact des changements technologiques sur les services? Si je pense entre autres à la disparition de la presse papier en semaine, maintenant, elle se retrouve uniquement en tablette avec des courts textes sur plusieurs courts textes sur le même sujet et même présence de multimédia. Quel impact ça a sur vous?
Écoutez, pour l'instant, on a la main heureuse parce qu'on a un site sur lequel on est capable d'aller chercher l'information encore. Ça ne veut pas dire que ça va durer tout le temps. Mm-hmm. On va devoir trouver un moyen pour s'adapter avant que la catastrophe arrive. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus aller chercher nos journaux. Comme les journaux sont cherchés au quotidien, il faut que ce soit adapté, ce qui n'est pas le cas actuellement pour aller chercher les journaux si on allait sur une tablette. Mm-hmm. Donc, évidemment, il va falloir adapter encore la technologie, mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'on risque d'avoir et qu'il y a de temps en temps, c'est que l'éditeur n'envoie pas la revue ou n'envoie pas le journal, ou etc. Mm-hmm. C'est les problèmes. Ça arrive que, malheureusement, on ne peut pas diffuser à cause de ça. Bon. Mais pour l'instant, au niveau électronique, on n'a pas encore ce problème-là. Mais ça ne veut pas dire que...
On n'est pas à l'abri d'éventuels changements.
Non, pas du tout. Puis on est très sensible à ça parce que ça compromet la mission même, évidemment, de l'audiothèque L'Oreille qui lit.
Tout à fait. Et donc, cette accessibilité à l'information pour
les
gens.
Oui, puis on sait que ce n'est pas tout le monde qui est équipé et ce n'est pas tout le monde qui a l'habileté d'aller naviguer sur Internet. Ça sera toujours le cas.
Il y aura toujours un besoin, finalement.
Des analphabètes de l'informatique, ça va exister. Ça existe et ça va exister. Et ce n'est pas parce que vous devenez tout d'un coup une personne handicapée visuelle ou une personne handicapée, que ce soit le handicap que ça voudra, que vous développez toutes les habiletés que vous n'avez pas eues avant.
Tout à fait.
Alors, on sait que déjà, c'est difficile, puis ne serait-ce que d'accepter que quelqu'un nous fasse la lecture, c'est déjà difficile. Alors, à ce moment-là, ben c'est sûr que ce service-là, on veut essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Bien sûr, nous aussi, nous subissons des coupures de budget importantes. On a un plan de redressement, mais on a eu aussi, évidemment, un plan pour couper.
Bon, ben c'est malheureusement d'époque, en fait. Hein?
Oui.
On a l'impression, je pense que c'est le mot en vogue, malheureusement, en ce moment. Je voulais juste terminer, il nous reste quelques secondes pour donner l'information, en fait, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à, en fait, bénéficier de vos services. Comment est-ce qu'on s'inscrit rapidement?
Alors, s'inscrire à l'audiothèque, on le fait par téléphone. Je pense que tout le monde peut avoir accès à son téléphone. Ou par courriel. Alors, on va commencer par le téléphone. Dans la région de Québec, 418-627-8882. Pour l'inscription, vous faites le poste 3002, Madame Huguette Roussel, que plusieurs connaissent déjà.
Madame Roussel va nous répondre.
Ah oui, Madame Roussel va vous répondre. Ben, elle est très gentille, avec son beau sourire, puis elle va vous aider. Ensuite, si on est dans la région de Montréal, dans le 514-393-0103, toujours le même poste, 3002.
Est-ce qu'il y a, est-ce que dans chaque région, il y a un numéro de téléphone différent?
À l'extérieur, on a le 1-877-393-0102. Ailleurs au Québec.
Parfait. Voilà. On va mettre le lien vers le site web de l'audiothèque L'Oreille qui lit sur la page de l'émission. Mm-hmm. Madame Nicoléa Tremblay, vous êtes coordonnatrice au développement et au service. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Attends. s'être posé. Les paupières trop lourdes qui veulent se fermer. Comme un rendez-vous ce matin, chaque nuit, de l'autre côté de la vie. On se retrouve à nouveau. Dans ces rêves éphémères où on est libre de tout faire, ce n'est que du temps qui garde toujours le rythme. Le matin viendra vite. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule. Ouvrir les yeux, regretter le songe, m'en vouloir un peu. Mes rêves m'exaspèrent. Être de lumière, tu n'existes que dans ma tête. Tu n'es qu'un ombre. D'une nuit à l'autre, impossible à cerner. Sans même te connaître, je ne peux que t'aimer. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule. De la nuit, quelle est ma vraie vie? Je rêve de réalité, je vis endormie, éveillée. Tu comme moi, un marcheur endormi qui n'existe que la nuit. Me cherches-tu, dis-moi, également convaincu que la vie se passe les yeux fermés. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule.
Alors, Somnambule de Amélie P. Bédard, qui vient tout juste de lancer un mini-album homonyme. On continue notre émission. Vous êtes toujours à Ça vaut le détour, première émission de la saison hivernale. Comme parents, la venue d'un enfant bouleverse nos habitudes de vie à tous les niveaux. Les besoins des enfants nés avec une maladie ne sont pas prévus, par contre, dans le guide « Mieux vivre avec notre enfant ». Lorsque le diagnostic est posé, le bébé se retrouve avec un agenda de ministre, rendez-vous, chirurgie, traitement parfois dans certains cas. L'enfant est pris en charge par le système, mais qu'en est-il des parents? Qui est là pour les outiller? C'est là que bénéficier de l'expérience de ceux qui sont passés avant nous peut être profitable. En studio avec moi, j'ai Nathalie Richard, qui est fondatrice et directrice de l'Étoile de Pachot, réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. Bonjour, Madame Richard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Un plaisir.
Donc, quelle est la mission de cet organisme, l'Étoile de Pachot?
La mission de l'organisme est de supporter les parents. Enfin, il y a un grand manque de soutien, vous l'avez très bien dit, il y a un grand, grand manque de soutien pour les parents. Donc, l'enfant est pris en charge très, très rapidement, en général, à l'hôpital. Il y a une tonne de spécialistes qui se mettent autour de l'enfant, mais le parent est vraiment laissé à lui-même dans cette grande aventure-là.
Justement, parce qu'on parle, en fait, d'enfants qui ont un diagnostic posé assez tôt, là, vraiment, souvent la première année de vie du bébé.
Souvent, on a aussi des familles qu'on rencontre, nous, ou qu'on nous réfère, que ça arrive plus tard. C'est pas rare aussi que ça arrive, mais en général, ça arrive quand même tôt. Souvent, le parent le sait. Moi, je l'ai su enceinte, que mon enfant allait avoir un handicap, là. Donc, souvent, on le sait avant. On est même pris en charge par l'hôpital avant même que l'enfant soit là. Mm-hmm. Donc, c'est toute une aventure qui débute. Puis, il y a vraiment un manque de soutien pour les parents. Tant qu'on ne passe pas par le CLSC pour rencontrer un travailleur social qui va nous informer des services qui sont gratuits, on n'est pas au courant de rien. L'hôpital ne nous informe pas vraiment de ce qu'on a droit. Puis souvent, ce qui est malheureux dans le système qu'on a au Québec, c'est que pour rentrer au CLSC, bien, il y a des listes d'attente.
Oui.
Donc, c'est pas rare non plus d'attendre 2 ou 3 ans avant de rencontrer un travailleur social pour être au courant des ressources qui existent, qu'on aurait droit depuis que l'enfant est né. C'est pas rétroactif, souvent, c'est des montants d'argent aussi. Donc, le parent est laissé à lui-même tout seul dans son salon, pas savoir qu'est-ce qu'il a droit. Si on mettait ça en place dès le début, je suis certaine que ça aiderait les familles, justement, à mieux traverser cette épreuve-là.
Oui, puis quand on parle de logistique, en fait, justement, on parle de rendez-vous souvent, mm-hmm. Etc., avec l'enfant, mais ça implique quand même un énorme investissement en temps, en énergie des parents. Qu'est-ce que vous apportez, justement, concrètement à ce soutien psychologique, peut-être, qu'on peut...
Un peu,
qu'on
oui,
peut
on fait la relation
ce volet-là
oui.
aussi.
En fait, nous, ce qu'on fait, en général, c'est l'hôpital qui nous appelle, qui nous réfère une famille qui vient juste d'avoir un diagnostic. Là, je vous donne notre exemple le plus oui. commun, là. On va rencontrer la famille à domicile. Donc, moi, j'arrive avec ce formulaire-là que j'ai amené ici avec moi. Premièrement, j'écoute la famille. Souvent, c'est la maman que je rencontre. Alors, on peut parler pendant 1 heure ou 2 de son expérience, de ce qu'elle a vécu. Il y a beaucoup de larmes, bien sûr. Hein. C'est dans la partie du deuil, souvent, au début. Donc, on fait juste jaser. Souvent, ils me demandent mon expérience, moi, comment que ça va. Mon fils a aujourd'hui 9 ans. Donc, ça les aide, des fois, à voir ce qu'il y a de l'espoir. Hey, il va aller à l'école un jour. Il va faire ci, il va faire ça. Puis ensuite, on parle des ressources. Justement, ce formulaire-là, là, ici, on passe à travers. Ça peut prendre 1 autre heure. Donc, je les informe de tout ce qui existe, qui est offert par le gouvernement, les centres de réadaptation, le CLSC, pour qu'ils soient au courant avant même que le CLSC les rencontre. Souvent, ce qui est aidant, c'est qu'ils vont au CLSC avec ce formulaire-là, puis ils en apprennent au travers social du CLSC.
Mm-hmm.
Ça, c'est malheureux, je trouve, là. C'est pas rare non plus que le CLSC nous appelle pour qu'ils se fassent expliquer des subventions qu'eux-mêmes offrent. Ça, c'est arrivé là, à quelques reprises. Oui, c'est aberrant.
Même, donc, vous servez quand même d'intermédiaire pratiquement entre même justement la famille et les autres services, entre
oui.
autres les services gouvernementaux. Quelles ressources ou quels items on peut penser que les parents ont tendance à payer en fait eux-mêmes en ne sachant pas que ça peut être subventionné?
Bien, il y en a une très drôle là, qui m'est revenue à quelques reprises. C'est pas drôle, haha. Mais c'est drôle quand que j'en ai entendu parler à plus d'une reprise. Il y a une subvention pour les couches. Quand on a un enfant handicapé ou gravement malade puis qui est encore en couche à l'âge de 3 ans, il y a une subvention qui existe au CLSC à partir de l'âge de 3 ans qu'on applique puis les couches sont couvertes. On a un montant annuel qui est payé, donc on paye plus de couches parce qu'on... Faites le calcul là, des couches, là,
c'est
ça coûte cher.
Très, très cher, bon, c'est voilà. une dépense que tous les parents
oui.
sont très heureux lorsque
quand
ça c'est arrête.
Fini, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de parents que j'ai rencontrés. C'est arrivé à quelques reprises. L'enfant a 9 ans, ils sont pas au courant. Puis là, ils apprennent du jour au lendemain que les couches sont payées depuis que l'enfant avait 3 ans. Donc, ça fait 6 ans qu'ils payent beaucoup de sous là, en couches. Puis là, les deux bras là tombent par terre.
Oui.
Donc ça, c'en est une qui est quand même très importante. Il y en a un autre aussi, le gardiennage. Au CLSC, il offre 2 subventions. Il y en a une qui s'appelle « Soutien à la famille », qui donne un montant d'argent annuel, en fait, qui peut aider à payer une gardienne qui vient à la maison. On s'entend que les parents d'enfants handicapés et gravement malades sont fatigués, sont épuisés. On a besoin de répit. On va rarement les laisser à la famille. C'est quand même une lourde tâche de s'occuper de ces enfants-là. On a un grand sentiment de culpabilité aussi. On ne veut pas en mettre trop sur les épaules des autres. Bon. Donc, engager quelqu'un, ça coûte cher. On n'engage pas nécessairement la petite voisine du coin de la rue.
Mm-hmm.
Et puis, en plus de ça, il y a souvent un des deux parents qui ne travaille plus parce qu'il doit rester à la maison avec l'enfant. Donc, il y a perte de salaire en plus. Donc, de faire garder son enfant devient pratiquement impossible.
Mm-hmm.
Donc, ces subventions-là sont très, très, très importantes. Puis, il y a malheureusement beaucoup de parents qui ne savent pas que ça existe. Donc, il y a la subvention que je vous parlais, soutien à la famille. Il y en a un autre qui part à partir de l'âge de 3 ans, qui s'appelle chèque emploi service, qui est excellent. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, mon fils est en pédagogie, qui est à la maison. Moi, j'ai droit, à cause de ses handicaps et ses nombreux soins médicaux complexes, j'ai droit à 25 heures par semaine offertes par le CLSC de payer quelqu'un qui vient s'occuper de lui à la maison. Donc, présentement, c'est une éducatrice spécialisée qui est à la maison, qui s'occupe de mon petit bonhomme, pendant que moi, je peux travailler, faire ma vie.
Oui, être, continuer à être active parce que voilà. C'est aussi quelque chose qui est important pour le Absolument. Parent. Justement, on parle de que c'est très prenant et qu'il va beaucoup s'investir, parfois à cause d'un justement de sentiment de culpabilité qui peut survenir. Mais c'est important que le parent garde son identité propre aussi, ne se transforme pas en aidant naturel non plus, nécessairement.
Je pense que de la force des choses fait que les premières années, c'est ce qui arrive.
Mm-hmm.
C'est ce qui arrive. On est en deuil, on est en choc. C'est tout plein d'étapes à passer pour se rendre au bout de ça. Puis effectivement, se retrouver soi et être actif dans la vie, dans la société, c'est très, très, très important. Mais ça vient à la fin d'une long cheminement, finalement.
Un long cheminement que, justement, vous aidez, en fait, les parents dans ce cheminement-là. Il semble y avoir beaucoup de choses qui se passent avant 3 ans.
Oui. Il y en a beaucoup après aussi. Mais oui, il y en a beaucoup.
Est-ce qu'on voit des changements dans les besoins des familles, justement, en bas âge, et les besoins se transforment ensuite plus l'enfant grandit?
Le 0-5, à partir de 5 ans, ça change beaucoup. 5 ans, parce que l'enfant peut commencer à être scolarisé. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, quand l'enfant va à l'école, notre besoin de répit est un peu moins grand parce qu'il va à l'école. Je vous dirais que c'est pas tous les enfants aussi, mais il y a quelque chose qui se passe à l'âge scolaire. On dirait que la maladie se stabilise. Le 0-5, les enfants sont très fragiles. Les enfants qui vont en garderie, le mien est allé, ils attrapent toutes sortes d'affaires. Puis c'est mm-hmm. un rhume tourne en pneumonie, ils sont hospitalisés, les crises d'épilepsie, on sort jamais de là. Donc, c'est complexe. Donc, le 0-5, il y a un besoin, en plus du fait que le parent est en deuil aussi, il y a un besoin énorme de répit, de soutien pour les parents. Donc, c'est sûr que l'aide change beaucoup entre le 0-5 et celle qu'on offre à partir de 5 ans aussi.
Mm-hmm. En terminant bientôt, je voulais savoir, pour les parents qui nous écoutent mm-hmm. ou les proches qui ont des familles, qui attendent même des enfants, ça peut être bon de se renseigner. Comment est-ce qu'on fait pour vous approcher?
Puis, on a un site web.
C'est pas la procédure.
Oui, on a un site web, donc www.étoiledepachaud.ca. Vous pouvez aussi nous rejoindre, notre numéro de téléphone qui est sur le site web. Et on a une page Facebook aussi. Nous, on rencontre des familles à chaque semaine. Donc, vous nous lâchez un coup de fil, nous envoyez un courriel, vous nous écrivez sur Facebook. Puis on va prendre le temps de vous rencontrer, voir comment on peut vous aider.
Est-ce qu'on parlait de liste d'attente au niveau des CLSC? Est-ce qu'il y a une liste d'attente à l'Étoile de Pachaud?
Pour aller faire des rencontres à domicile, il y a 2-3 semaines d'attente, oui.
Aussi. Tout de même, ce n'est pas, on ne parle pas de 2-3 ans
non.
À ce moment-là.
Oui.
Eh bien, c'est un service essentiel. On le voit, il y a un besoin au niveau des familles. Merci beaucoup d'être présente pour ça. Nathalie Richard, vous êtes fondatrice et directrice de l'Étoile de Pachaud, le réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Avec Maxime Despomerlo.
Je vous invite à réagir aux propos de nos invités sur Twitter avec le mot-clé CVLD pour Ça vaut le détour ou canal M, @canal, barre de soulignement M. On poursuit notre émission avec un segment culturel aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec une artiste qui a maintenant dépassé ses 20 ans de carrière dans le milieu de la danse montréalais et qui débute un nouveau projet où vous êtes invité à participer. J'ai au bout du fil France Geoffroy, fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, compagnie spécialisée dans la danse intégrée. Bonjour France.
Bonjour Maxime.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de l'invitation, c'est très apprécié.
Je voudrais vous laisser parler tout d'abord de Corpuscule Danse et surtout, qu'est-ce que la danse intégrée?
Alors, Corpuscule Danse, c'est une compagnie de danse intégrée. La danse intégrée, c'est une forme de danse contemporaine qui jumelle des personnes avec et sans handicap. Il y a 2 volets à ma compagnie, donc un volet performance qui se situe dans le milieu de la danse professionnelle, de la danse contemporaine, et il y a un volet aussi enseignement qui est plus dans le milieu du loisir communautaire, bien qu'il y a beaucoup de danseurs qui s'intéressent au travail de la compagnie et son volet enseignement. Et c'est ça. Et Corpuscule existe depuis 2000 et on a fait plusieurs productions, autant professionnelles que des spectacles plus étudiants.
Et justement, en fait, on va parler aujourd'hui d'un nouveau spectacle. Vous avez annoncé très récemment que vous travaillez sur un nouveau projet qui s'appelle Raconte-moi un souvenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des origines de ce projet?
En fait, j'ai toujours beaucoup de plaisir à amener mes étudiants sur scène et j'ai pas un volume d'étudiants qui me permet de faire des gros spectacles. Comme dans certaines écoles, avoir 60 personnes sur scène. Et dans le cadre du projet Raconte-moi un souvenir, j'ai voulu m'associer avec l'Académie de danse d'Outremont et aussi avec Projet Libellule, qui est chapeauté par Annick Kemp, une professeure d'art dramatique spécialisée en ombre chinoise. Et aussi voulant avoir beaucoup l'expertise de l'Académie de danse d'Outremont, qui est gérée par la directrice Irène Galesso. Cette dame a l'habitude vraiment de travailler en intergénérationnel, alors de mettre autant des enfants, des adolescents et des adultes sur une scène. Alors, c'est pour ça un peu que j'ai fait appel à d'autres collaboratrices pour me permettre de réaliser ce projet-là. À l'intérieur de ce projet-là, également, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir des ombres chinoises, donc une formation de 10 heures on va vraiment là montrer aux étudiants les principes de l'ombre chinoise, puis pratiquer ça tous ensemble, parce que moi, c'est quelque chose que je connais pas, que j'ai jamais fait.
Ça va être une première à intégrer dans vos productions.
Oui, absolument. Alors, je trouve ça très, très stimulant parce que même l'instigatrice du projet va être en formation. Alors, alors c'est merveilleux. Et c'est un projet, évidemment, on veut attirer des gens de l'Académie de danse, qui est une école régulière de danse. Alors, aller chercher des enfants, des adolescents là. On veut également aller chercher des gens qui sont dans un collège où Annick Kemp travaille, mais on ouvre ça plus large, donc monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire à la formation. C'est une formation qui est quand même assez longue dans le temps. C'est un 15 semaines, alors on va vraiment avoir le temps d'installer les choses, de faire des ateliers d'écriture, d'essayer de sortir la matière. Ça va se passer par atelier chorégraphique. Il va y avoir également des chorégraphies imposées. Et ça va se passer aussi en trois blocs. Au départ, les adultes, les adolescents et les enfants vont être dans des groupes différents. Et à un moment donné, plus le processus va avancer, on va mettre les adolescents et les enfants ensemble pour finir justement au mois de mai, avant les représentations du spectacle, pour avoir tout le monde ensemble, puis vraiment créer une production, là, vraiment un spectacle de peut-être une heure. Là. C'est ça l'objectif visé. Puis il va y avoir, c'est ça, de la danse entrecoupée de scènes d'ombre chinoise. Alors,
donc, justement, ces trois blocs-là, ça permet même aux gens qui n'ont jamais fait de danse, qui sont attirés par le projet, de se familiariser lentement avec, justement, avec, en fait, le mouvement, le corps, comment intégrer ces segments-là d'ombre chinoise. Donc, c'est graduel. On fait pas peur aux gens qui connaissent pas ça.
Non, généralement, les cours de corpuscule qui se termine ou pas par un spectacle, c'est ouvert à tous. Et puis, je dirais que ma spécialité à moi, en tant qu'enseignante tétraplégique, c'est d'essayer d'aller chercher les forces de tout le monde à travers leurs possibilités, puis aussi d'adapter la gestuelle pour que tout le monde puisse là bien apprécier non seulement l'apprentissage, mais aussi la performance finale à la fin. Puis c'est très rare, là, je pense que c'est jamais arrivé que quelqu'un se sente pas bien dans le travail parce que souvent on part de la gestuelle des participants justement à travers des ateliers chorégraphiques. Donc, c'est eux qui créent et nous fignolons. Mm-hmm. Évidemment, on peut diriger les gens qui n'ont pas d'expérience ou si on montre un peu des techniques relatives à comment travailler avec les aides à la mobilité, parce que chaque personne handicapée n'a pas les mêmes limitations, les mêmes possibilités. Et on peut avoir des gens qui ont une amputation, des gens en fauteuil roulant, des gens en triporteur. Alors, c'est vraiment... tout le monde est inclus. C'est très inclusif. Voilà, on travaille à partir des individus et non d'une technique ou de langage codifié.
Et justement, donc, on parle d'aide à la mobilité, entre autres, c'est aussi de savoir les intégrer et les utiliser comme objets artistiques, finalement, comme support technique même, davantage que un objet du quotidien, par exemple.
Oui, absolument. J'essaie d'éliminer justement, souvent derrière un fauteuil roulant, il y a des poignées. Et puis, souvent, les danseurs sans handicap, ils vont avoir le réflexe de prendre les poignées pour pousser une personne. Et moi, je cherche beaucoup plus que la personne sans handicap soit en contact avec le corps de la personne handicapée. Des fois, c'est pas toujours possible, mais le plus possible, j'essaie justement d'enlever ça. Puis je trouve que le fauteuil roulant, c'est vraiment un beau... c'est un véhicule du mouvement pour mm-hmm. moi. Puis ça transforme le langage, la gestuelle des danseurs debout qui doivent justement trouver des appuis, inventer des nouvelles techniques, des nouvelles approches avec les personnes handicapées. Puis très vite, je trouve que c'est un beau mariage. Puis on focus pas justement sur le handicap, ni même sur les aides à la mobilité. Tout ça, ça fait un beau mélange, puis c'est souvent très inspirant, très touchant. C'est comme des petits clones de moi qui a commencé à l'époque toute seule et qui, là, voit à travers les autres une passion qui se perpétue à travers les autres.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours pour Corpuscule Danse?
On se concentre sur ce projet-là pour l'instant. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qui mijotent dans le collimateur, mais pour l'instant, là, ce projet-là va nous amener là, jusqu'au mois de juin, alors on se concentre là-dessus.
Jusqu'au mois de juin, donc, est-ce qu'il y a déjà une date fixée pour le spectacle?
Oui, il va y avoir deux spectacles au Théâtre Alfred Laliberté. C'est un théâtre professionnel qui est situé là, dans l'université à l'UQAM. Mm-hmm. Et moi, j'inviterais les gens qui ont envie de s'inscrire à un projet comme ça. Les cours pour adultes vont être le mercredi soir de 18h à 20h et ça commence à partir du 24 février. Les cours pour enfants vont être le samedi. J'ai deux blocs horaires. Il y en a un qui est de 11h45 à 13h et l'autre de 13h15 à 14h30. Pour les ados, je crois que c'est le cours un petit peu plus tard et les enfants le cours un petit peu plus tôt.
Oui, parce que des ados, ça se lève tard.
Oui, c'est pour ça. Habituellement, on fait le contraire, mais là, on a décidé d'être compréhensif avec nos adolescents. C'est ça. Moi, je viens de lancer la publicité vendredi dernier. Donc, c'est présentement, les gens peuvent s'inscrire, peuvent même le faire en ligne via le site Internet de Corpuscule Danse, qui est le www.corpusculedanse.com. On peut aussi m'écrire à info au pluriel à commercial corpusculedanse.com. Et évidemment, premier arrivé, premier servi. Il y a déjà des gens là, qui s'inscrivent rapidement parce que ça motive beaucoup les gens quand il y a un objectif final qui est une représentation sur scène. Alors, on est bien contents, puis on invite les gens à s'inscrire, à appeler pour des informations.
Et sinon, à venir voir le spectacle en juin. On va pouvoir suivre les développements de la production aussi avec les réseaux sociaux, votre page Facebook Corpuscule Danse. On va mettre le lien vers le site web de la compagnie sur la page de l'émission aujourd'hui. France Geoffroy, vous êtes fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, compagnie spécialisée dans la danse intégrée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir parlé de votre projet « Raconte-moi un souvenir ».
Merci à vous et à une prochaine fois peut-être pour parler du spectacle et pourquoi pas demander l'opinion des gens, des participants, ça pourrait être intéressant.
Tout à fait, on va pouvoir s'improviser critique. Merci.
Merci à vous.
Sombre est ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. Dans la gare, de nulle part, tu attends ton prochain départ. Où elle n'y sera pas, celle que tu cherches, et qui n'existe pas, et qui n'existe pas. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la mort qui grimace, c'est la mort qui grimace. Solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. À travers la vitre embuée, tu vois le paysage qui défile. Les poteaux de téléphone et les fils, et enfin les champs de blé qui te prennent à rêver, qui te prennent à rêver. Te rappelles-tu la table en fleurs? Ta mère et tes sœurs, ton père et son déshonneur. Sombre est ta solitude de voyageur, comme tu pleures, pauvre déserteur. Et soudain tu sens la douleur, et soudain tu sens ton cœur. Il ne te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu meurs, bientôt tu meurs. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière. Et ne subsiste que le destin de tes passages dans les trains, de ton visage et du sien, de tes pas sur les chemins. Dors tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois la mort en face. C'est la vie qui grimace. Et toujours le temps passe. Quoi, quoi, corbeau qui passe dans le ciel, tu moi, ou sans les hirondelles. Tu vois la mort en quoi, quoi, corbeau qui passe dans le ciel, tu moi, ou sans les hirondelles. Nous étions quoi, corbeau qui passe dans le ciel, tu moi, ou sans les hirondelles. Quoi, quoi, corbeau qui passe dans les ciels, tu moi, ou sans les hirondelles. Nous et toujours les hirondelles.
Alors, c'était Jean Leloup avec Voyageur, tiré de son album Paradise City. Jean Leloup qui a fait une rentrée montréalaise fracassante au Métropolis il y a quelques jours. Toujours agréable de l'entendre dans nos oreilles. Comme je le disais en début d'émission, on réagit à Ça vaut le détour, à des sujets d'actualité. Cette fois-ci, c'est surtout en fait ce reportage à Radio-Canada diffusé le 21 janvier dernier qui parle parlait en fait des baisses de budget dans les CIUS, les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, donc qui ont des répercussions sur les services à domicile. Pour nous parler davantage de cet enjeu, je joins au téléphone Judith Gagnon, qui est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va récapituler un peu, en fait, les auditeurs qui n'auraient pas vu ce reportage de Radio-Canada la semaine dernière. De quoi on parlait, en fait, dans ce reportage? Quel est l'enjeu chaud en ce moment?
Dans le reportage de Radio-Canada, on parlait très clairement que les budgets alloués à l'aide à domicile seraient en baisse dans les 5 CIUS de l'île de Montréal, que les budgets auraient diminué de 9 % par rapport à 2014, qu'il y aurait eu une diminution de 9 millions de dollars. Et on faisait état aussi que la diminution est modulée dépendamment où tu te situes à Montréal. Le nord de l'île de Montréal, la diminution était plus grande que l'est de l'île de Montréal. Ça, on situait bien ça, puis on voyait aussi des gens qui recevaient des services à domicile, d'aide à domicile, particulièrement des services d'aide domestique, où l'auxiliaire familial leur annonçait « c'est la dernière rencontre que j'ai avec vous, c'est le dernier service ». Puis là, les gens se disaient « mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver ?» C'était quand même assez grave, la situation.
Et c'est une nouvelle qui est abrupte. On mentionnait aussi que parfois, certains aînés attendent des mois pour obtenir du soutien à domicile. Est-ce que c'est une situation qui est fréquente? Est-ce que c'est un problème qui est souvent signalé à votre organisation?
Je voudrais aussi rappeler, oui, c'est une situation fréquente. Parce que vous savez, l'aide à domicile, on ne peut pas la situer seule. Il faut la situer dans un continuum de services. C'est la première ligne, l'aide à domicile. Les gens demandent de l'aide à domicile. Après ça, ils diminuent d'autonomie. Puis après ça, on se retrouve en CHSLD. Alors, c'est évidemment un énorme impact si les gens attendent très longtemps pour recevoir de l'aide à domicile. Leur situation de santé diminue de plus en plus. Puis quand ils arrivent à un moment donné où ils deviennent vraiment dans des cas de lourde incapacité, ils sont obligés d'aller en CHSLD. Ce qui n'arriverait pas, à notre avis, on n'est pas des médecins, je ne vais pas vous dire ça en termes médicaux, mais qui arriverait peut-être moins souvent si les gens avaient tout de suite, au départ, dès qu'il y aurait un besoin, qui manifesterait un besoin de l'aide à domicile, des services d'aide domestique, pour protéger et maintenir leur autonomie plus longtemps. Quand les gens attendent plusieurs mois avant d'avoir ces services-là, vous comprenez qu'ils dégradent. Puis vous comprenez qu'après ça, on ne les retrouve plus au même palier. Et là, ils sont obligés d'être souvent aller en institution ou aller en résidence ou quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas eu ça à temps. C'est une situation qui est extrêmement difficile pour les aînés. Parce que vous savez très bien, madame, que 87 % des aînés qui ont dit, puis ça, c'est des sondages récents, qui voulaient rester à domicile, sont heureux d'être chez eux. Ils veulent mourir à domicile. Ils veulent avoir des soins. Ils veulent avoir un continuum de services. Puis quand ça retarde, ils arrivent à une autre étape de leur vie, puis ils sont obligés d'être souvent aller dans des résidences puis aller dans des CHSLD, puis c'est pas leur volonté.
Et justement, vous situez très bien l'enjeu dans cette idée de continuum de service. Ça aide, non seulement ça comble le désir des gens de rester plus longtemps possible à la maison, en fait, dans leur environnement familier, à ce qu'ils soient actifs aussi. Et au bout du compte, en fait, ça coûte moins cher que des soins prodigués en CHSLD. Est-ce que le gouvernement fait fausse route pour des économies à court terme?
Mais écoutez, madame, on va regarder ça bien simplement. C'est sûr qu'une personne en CHSLD, j'ai regardé les statistiques, ça peut coûter entre 40 et 70 000 $ pour une personne qui est en CHSLD, une personne qui a du maintien à domicile, c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment pas de cet ordre-là, là. C'est vraiment peut-être trois fois moins cher ou peut-être encore moins cher. J'ai pas les données exactes, j'ai pas réussi à les trouver, mais c'est pas du tout du même ordre. Fait que c'est évident que on constate qu'il faut mettre de l'argent davantage dans le maintien à domicile, les services d'aide domestique aussi.
Justement, quand on parle d'aide à domicile, ça englobe en fait plusieurs volets. Donc, on peut à la fois parler de la toilette quotidienne comme de l'aide à la préparation des repas, par exemple.
Ouais, je vais aller plus loin. Je vais les définir parce que même moi, j'avais de la misère à les définir. Quand on parle d'aide à domicile, on parle des services d'aide domestique. Services d'aide domestique, c'est les services d'entretien ménager, l'entretien des vêtements, préparation des repas, le grand ménage, toutes ces questions-là. C'est des services qui sont reliés à des fins domestiques. Tandis que quand on parle du soutien à domicile, c'est autre chose. C'est des services, des soins et des services professionnels, des services infirmiers, des services psychosociaux, des services de nutrition, des services médicaux. C'est aussi des services d'aide à domicile, mais des soins d'hygiène, d'aide à l'alimentation, d'aide aux tâches domestiques. C'est dans le soutien à domicile, les services aux proches aidants, gardiennage, répit, des soutiens techniques. Ça veut dire que les services d'aide d'aide domestique sont beaucoup reliés à l'aide domestique, tandis que le soutien à domicile, c'est beaucoup plus large. C'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est pour ça que je vais faire un retour sur ce que disait M. Barrette, le ministre Barrette à la télévision, qui lui disait que les budgets ont augmenté de 2014 à 2015 par rapport à 2013-2014, ont augmenté de 11 % pour le nombre d'heures de services donnés aux personnes à domicile. Mais lui visait certainement davantage les services de soutien à domicile.
Mm-hmm.
Puis dans l'entrevue, puis ça c'est pour nos auditeurs, il faut le dire, dans l'entrevue, ce qui était... ce qu'on parlait qui était arrêté ou que les auxiliaires des CLSC disaient non, c'est les services d'aide domestique. Vous avez vu, les services de soutien à domicile sont beaucoup plus larges. C'est pour ça que c'est un vocabulaire difficile à comprendre. C'est un vocabulaire où il faut vraiment mettre les choses dans les bonnes catégories.
Mm-hmm. Pour s'assurer justement d'avoir au moins le maximum de services. Est-ce que, justement, toute cette question, en fait, de l'autonomie à domicile qui pourrait rassembler tous ces volets, est-ce que c'est un dossier important pour la QDR?
Énormément. Parce que, vous savez, nous, la QDR, on assiste un petit peu comme acteur, puis on regarde, on assiste à ce qui se passe. Je vais vous nommer dans le monde de la santé. Vous avez vu, il y a eu une réforme, très grosse réforme, la loi 10. On a rechangé les jeux. On a rechangé totalement la structure du monde de la santé. Bon. On assiste aussi à une autre loi, à quelque chose qui a été fait un peu auparavant, qui est la loi 90, qui parle que la loi 90, c'est pour dire que les services infirmiers peuvent être exécutés par d'autres ordres professionnels,
mm-hmm.
délégués. Ça peut même être délégué jusqu'aux préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est une deuxième chose. Il y a eu une réforme majeure des services de santé, puis il y a la loi 90 qui parle de ça. Puis on assiste aussi à d'autres choses. C'est les services d'aide à la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les ESAD, les entreprises d'économie sociale, ils ont à domicile, ils ont reçu un investissement de 6,5 millions de dollars dans le soutien à la formation des préposés, dans les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Ça veut, vous voyez, ça veut dire que ces entreprises-là vont pouvoir vont offrir des services d'aide à domicile. Les actes qui étaient réservés à des infirmières, infirmières auxiliaires, certains actes vont être délégués à des préposés aux bénéficiaires qui sont couverts par les ESAD, puis le monde de la santé a changé. Nous, ce qu'on craint, c'est que finalement, il y ait comme un changement que les services d'aide à domicile soient vraiment donnés davantage par les ESAD. Ça, nous, on n'a rien contre ça, mais sauf que les ESAD, ce n'est pas gratuit. Complètement gratuit.
Ça reste un autre morceau de la problématique. On va devoir s'arrêter pour le moment sur ce dossier, mais je n'ai crainte, on risque de se reparler car c'est toujours d'actualité. Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation.
Merci beaucoup, madame.
Je remercie mon équipe avec moi pour Ça vaut le détour de ce 25 janvier. À la recherche, Christiane Campagna. Réalisation, Jean-Sébastien Laliberté. Médias sociaux, Kevin Breton. C'était Maxime Despomerleaux. À bientôt.
C'était Ça vaut le détour. Une présentation des lunettes eSight.